Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, bien chers amis, nous fêtons aussi aujourd'hui deux choses à la fois. D'une part, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres en ce jour de Pentecôte et aussi l'anniversaire de la fondation de l'Église. L'Église est une vieille dame qui a été fondée il y a 2000 ans par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous faut bien sûr comprendre l'influence du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. On voit déjà tout de suite sur les apôtres. Les apôtres, avant la fête de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit était frileux, était tiède, au moins en partie. Ils n'avaient pas une âme très fervente, ils n'avaient pas encore compris beaucoup de choses. Et au moment précis où le Saint-Esprit descend sur leur âme, immédiatement, l'Évangile nous dit, ils se mirent à parler. Et puis, les actes des apôtres nous disent, ils se mirent à parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit va délier en quelque sorte leur langue et ils vont commencer à prêcher les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Prêcher l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Partir à la conquête du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, allez prêcher, baptiser. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et même bien, chers frères, ce conseil de notre Seigneur, cet ordre de notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres ne s'adresse pas simplement aux apôtres, mais s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Nous aussi, mes bien, chers frères, nous devons remplir nos âmes du Saint-Esprit parce que nous aussi, comme les apôtres avant la venue du Saint-Esprit, nous sommes tièdes souvent. Un manque de ferveur, un manque de générosité à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier la phrase que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée dans le livre de l'Apocalypse sur les tièdes, que nous sommes tous un peu, au moins dans certaines parties, parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, mais tiède, je vous vomirai de ma bouche. Et donc il faut demander au bon Dieu ce qu'on appelle le feu sacré de la charité du bon Dieu, le feu sacré de ce Saint-Esprit qui descend sur les apôtres et qui permet aux apôtres de se délier les langues et de commencer à parler, prêcher notre Seigneur. La même chose que nous aussi, nous devons faire, mes bien chers frères. Alors, nous allons peut-être dire, mais qui suis-je pour prêcher? Qui suis-je pour manifester ma foi à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis toujours très faible? Et quel conseil que va donner notre Seigneur à ses apôtres? Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous laisse ma paix. Notre Seigneur leur dit, vous n'êtes plus tout seul, maintenant vous allez avoir avec vous les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Et ces fruits du Saint-Esprit vont être visibles et les gens verront autour de vous justement ces fruits du Saint-Esprit et comprendront que ces fruits du Saint-Esprit viennent d'un arbre spécial, un arbre qui est divin, à savoir l'Église catholique. Alors, mes chers frères, il faut nous aussi faire la même chose. Est-ce que les fruits qui sont en moi sont les fruits d'un arbre divin ou sont-ils les fruits d'un arbre humain? Notre Seigneur nous a dit que si les fruits sont bons, l'arbre est bon. Est-ce que j'ai de bons fruits? Est-ce que les fruits que je présente par ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller, ma façon d'agir dans ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie en société, est-ce que ces fruits sont les fruits de notre Seigneur Jésus-Christ ou sont-ils au contraire les fruits du monde? Sont-ils les fruits qui viennent d'une doctrine pérenne, d'une doctrine éternelle, d'une doctrine sacrée, d'une doctrine divine? Ou sont-ils les fruits du travail des hommes? Voilà la question qu'il faut nous poser. Et c'est par les fruits que nous serons reconnus. Si nos fruits sont divins, nous venons d'un être qui est divin, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment fils de Dieu. Si nos fruits sont purement humains, nous venons d'un être humain et nous sommes tout simplement les enfants des hommes. Et comme il n'est pas possible de plaire à deux maîtres à la fois, nous plairons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous plairons au monde, mais il nous faut faire ce choix, bien sûr, frère. Alors essayons de comprendre l'importance des dons du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit travaille sur nous. Je conseille beaucoup pour ceux qui n'ont pas lu de profiter de ce temps après la Pentecôte, cette octave de la Pentecôte, toute cette semaine, pour lire le magnifique livre de Mgr Gaume, j'ai un trou de mémoire pour le titre. Bon, ça viendra plus tard. Il y a un livre en deux volumes sur les fruits du le traité du Saint-Esprit, pardon, ce que je cherchais. Le traité du Saint-Esprit de Mgr Beaumont, deux volumes. Il a été édité par je sais, aux éditions Sérémie. Je conseille beaucoup de le lire. Ça vous aidera à comprendre justement la force du Saint-Esprit. C'est en voyant l'apostolat extraordinaire des apôtres que nous comprenons justement ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos âmes. Les apôtres, humainement parlant, étaient des hommes, je dis bien humainement parlant, étaient des hommes quelconques. Ce n'étaient pas des hommes qui avaient fait des grandes études, sauf saint Paul. C'est des pêcheurs, pêcheurs en Galilée, et ils étaient des hommes qui, humainement parlant, n'avaient pas reçu grand-chose. Mais c'est le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par les dons du Saint-Esprit, qui vont remplir leur âme, et à ce moment-là, ils vont avoir la force du bon Dieu, la force divine. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous sommes tentés de dire au bon Dieu, je n'ai pas grand-chose à vous donner. Alors le bon Dieu va nous remplir de lui-même, et à ce moment-là, nous aurons à donner notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes autour de nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pendant cette octave de la Pentecôte, cette semaine remplie du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Eh bien, il va falloir, en quelque sorte, monter notre âme vers le bon Dieu. Il y a en quelque sorte quatre étapes, ou trois ou quatre étapes, ça dépend comment on classifie les choses, mais je vous en ai souvent parlé, mais il faut bien comprendre ces choses. La première chose que va nous demander le bon Dieu, c'est évidemment de le connaître. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la foi sans connaître l'Évangile. Cette messe, ça correspond à, évidemment, à toute la première partie de la messe, la lecture de l'Épître, la lecture de l'Évangile. Mais cette connaissance du bon Dieu n'est pas suffisante. Le bon Dieu nous demande de monter encore un degré pour aller à la compréhension du bon Dieu. C'est en méditant sur notre foi, en méditant sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous comprendrons au moins en partie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous devons prêcher notre Seigneur Jésus-Christ pour justement contrecarrer la prédication du monde? Où notre vie sera centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, et à ce moment-là sera centrée sur un être divin qui peut nous monter vers le ciel. Au contraire, notre vie sera centrée sur nous-mêmes, notre pauvre humanité. Et à ce moment-là, le démon va nous enfoncer la tête dans la boue. Et nous allons mourir étouffés. Et la compréhension n'est pas suffisante. Dès qu'on essaie de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ, le démon va se déchaîner contre nous. Donc il faut aller à la troisième étape, qui est une étape de combat. Et donc le bon Dieu va nous donner ses dons du Saint-Esprit, surtout le don de force, justement pour franchir cette étape de combat, afin de monter à la quatrième étape, l'étape finale, qui est l'étape d'amour. D'abord connaître Dieu, comprendre le bon Dieu, se battre contre les ennemis et aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est obligée de passer par ces différentes étapes. C'est évident que la première étape, la connaissance correspondra à ce qu'on appelle la vie purgative, la vie de purification. La deuxième étape va correspondre, deuxième et troisième étape en fait, vont correspondre à la vie illuminative. Et la quatrième étape, l'amour de Dieu, correspond à la vie unitive. Nous devons suivre l'exemple que nous ont donné tous les saints. Et les dons du Saint-Esprit, justement, vont se répartir. Et le bon Dieu va nous donner certains dons du Saint-Esprit en fonction de l'étape dans laquelle nous sommes. Si nous sommes encore dans l'étape de connaissance de Dieu, il va nous donner certains dons qui ne seront pas les mêmes dons qu'il va donner, par exemple, à quelqu'un qui sera déjà en voie illuminative. Et au contraire, si quelqu'un est déjà en voie initiative, à ce moment-là, il aura la pleine possession, le plein usage de tous les dons du Saint-Esprit. Alors essayons de comprendre justement pourquoi et comment notre Seigneur Jésus-Christ peut travailler dans l'ordre dans lequel il travaille avec nos âmes. On peut dire que certainement le premier don qu'il va nous donner au début de notre vie spirituelle, notre montée vers lui, c'est évidemment le don de science. Pourquoi? Parce que ce don de science est un don qui va nous permettre de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. On connaît notre Seigneur Jésus-Christ par la science justement. Et bien ce don de science va en quelque sorte nous donner l'amour de l'étude. Lorsqu'un quelqu'un qui n'est pas catholique se rapproche du bon Dieu par la grâce du bon Dieu, qui donne déjà ses grâces même à des gens qui ne sont pas catholiques, pour leur montrer déjà le chemin qui mène à Dieu, parce que les gens viennent me voir ou viennent en retraite ici qui ne sont pas catholiques, c'est presque la moitié d'entre eux, la première chose que nous faisons c'est quoi? Mettre un catéchisme entre leurs mains. Alors dans le catéchisme du Concile de Saint-Pilice, le catéchisme du Concile de Trente, voilà l'enseignement de l'Église. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres, voilà ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles, et voilà ce que l'Église catholique enseignera encore pendant 20 siècles si l'Église catholique ici-bas dure suffisamment de temps. Cet enseignement est divin, ne changera jamais, et donc c'est là le fruit du don de science. Puis après, la connaissance n'étant pas suffisante, le bon Dieu immédiatement va rajouter un deuxième don, qui est le don d'intelligence, pour comprendre cette fois-ci. Pas simplement pour connaître, comprendre. Les gens des années, la plupart des catholiques des années 60 connaissaient Dieu. Ils n'avaient rien compris. La plupart des gens des catholiques des années 60 connaissaient l'Église catholique. Vous n'avez jamais réussi à comprendre pourquoi l'Église catholique était là. Résultat des causes, ils ont tous perdu la foi. Parce qu'ils se sont arrêtés justement à la connaissance, qu'ils ne voulaient surtout pas monter à la compréhension de Dieu, parce qu'ils avaient bien trop peur de se sanctifier. Eh bien, il nous faut justement utiliser ce don d'intelligence, cette fois-ci, pour comprendre comment notre Seigneur Jésus-Christ travaille dans nos âmes. La première condition pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse travailler dans notre âme, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte de l'âme. Si je garde la porte de mon âme complètement étroitement refermée en disant « Mon Dieu, je vous aime bien, mais surtout restez là où vous êtes et laissez-moi là où je suis », si on ouvre un petit peu la porte de l'âme en disant « Bon Dieu, écoutez, je veux bien de vous, venez me voir 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, prière du matin, prière du soir. Bon, je veux bien que vous soyez autour de moi au moment du chapelet, mais ça s'arrête là. Surtout, ne me demandez pas de me sanctifier, parce que je n'ai pas envie de porter ma croix. » Qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ, chrétien de ce genre? Et donc, encore une fois, les dons de science, les dons d'intelligence vont nous élever, mais ça ne suffit pas. Dit que la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est une étape de combat. Une étape de combat terrible parce que le démon qui voit cette âme qui monte ne va pas rester les bras croisés en laissant cette âme monter vers le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour décourager cette âme qui monte vers le bon Dieu, tout faire pour se battre contre cette âme qui monte vers le bon Dieu. Alors il va falloir utiliser deux autres dons à ce moment-là qui vont intervenir. Le don de force, bien sûr. Le don de force, c'est le don de conseil. Malheur à celui qui se bat sans prendre conseil d'abord. Avant qu'un général d'armée envoie son armée sur le terrain, il étudie soigneusement ses cartes, il étudie soigneusement tous les renseignements qu'il a par ses espions sur l'adversaire pour organiser sa bataille, pour avoir une chance de la remporter. Donc le bon Dieu ne demande pas de nous battre directement, mais de nous battre après avoir pris conseil du bon Dieu. Après avoir pris le temps de nous purifier par le sacrement de pénitence, s'être rempli du Saint-Esprit par la Sainte Communion avant de commencer à nous battre. À ce moment-là, si on associe ensemble ces deux dons de conseil et de conseil et de force, alors oui, le bon Dieu peut travailler dans nos âmes. Et il peut faire d'une nouille une barre d'acier, littéralement. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait avec les martyrs. Ce qui s'est passé avec tous les grands confesseurs de la foi catholique qui sont partis dans le monde entier pour prêcher notre Seigneur et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Donc après avoir utilisé ce don de science, d'intelligence, de force et de conseil, alors pour continuer de monter, nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, ce seront les trois derniers dons qui vont à ce moment-là être utilisés par chacun d'entre nous. Bien sûr le don de sagesse, le don de piété, le don de crainte de Dieu. Parce qu'on possède notre Seigneur Jésus-Christ par la voie unitive, la première chose qu'on doit faire, c'est garder cette voie unitive. Donc avoir cette crainte de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à celui qui n'a pas la crainte de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la crainte de perdre notre Seigneur Jésus-Christ est protégé contre l'orgueil. Au contraire, celui qui est sûr de lui et qui prétend pouvoir garder cet amour du bon Dieu par ses propres forces, le bon Dieu va l'abandonner justement à ses propres forces. Il va s'écrouler. Alors il faut aussi le don de piété, justement, qui correspond à la vertu de religion, pour augmenter en nous, jour après jour, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir cet esprit de contemplation. C'est don de piété qui nous donne l'esprit de raison, c'est don de piété qui nous donne l'esprit de contemplation, et avec ça, bien sûr, la sagesse. C'est don de sagesse qui est le plus grand des dons du Saint-Esprit, mais qui ne peut pas exister sans avoir en même temps plus petit. Parce que la crainte de Dieu est le début de la sagesse, c'est pourquoi ces deux dons vont se retrouver au même niveau, si vous voulez, la crainte et la sagesse. Cette sagesse qui va illuminer notre intelligence pour que justement nous comprenions où sont les choses importantes. Si vous demandez à un catholique fervent, un catholique qui est dans l'amour du bon Dieu, quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Qu'est-ce qu'il va répondre? Sauver mon âme. Un jour posséder Dieu. Si au contraire vous demandez aux gens englués dans le monde moderne, quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Jouir du monde. Donc il y a un choix où nous cherchons à jouir ici-bas de ce monde, où nous cherchons un jour à jouir de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Où nous suivons les faux principes du monde de liberté, d'égalité, de fraternité, où nous suivons les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance avec tous les commandements de Dieu qui nous montrent vers le bon Dieu. Celui qui ne monte pas, il descend. Ah mais bien, chers frères, il faut demander au bon Dieu qui nous donne justement accès à ces dons. Ces dons, il nous les donne aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, il nous les donne à la fin de compte à chaque fois que nous utilisons la Sainte Communion. Chaque fois que nous confessons avec ferveur, nous recevons une partie de ces dons. À chaque fois que nous communions, nous recevons davantage de nourriture spirituelle pour nos âmes, afin que l'amour du bon Dieu progresse dans nos âmes. Est-ce que l'amour du bon Dieu progresse en nous? Est-ce que jour après jour, quand je vais me confesser, quand je communie, est-ce que jour après jour, je peux constater en mon âme une augmentation de l'amour du bon Dieu? Au contraire, je peux considérer qu'une pauvre stagnation de ma vie spirituelle. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons tous ces dons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec ces dons, les fruits du Saint-Esprit, surtout le fruit de la paix, le fruit de la joie. Ayons notre cœur justement plein de joie dans notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement notre Seigneur Jésus-Christ remercie en quelque sorte tous ceux qui le suivent, qui acceptent de porter leur croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va mettre une partie de sa divinité en nous. Nous serons en quelque sorte divinisés littéralement par ces dons. Les dons du Saint-Esprit vont diviniser l'homme d'une certaine façon. Parce que notre âme va ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu par participation, justement. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par nature. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu par nature. Nous sommes enfants de Dieu, justement par participation à ces dons du Saint-Esprit, par le baptême. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais il est évident que la porte d'entrée, encore une fois, de tous ces dons extraordinaires, c'est l'état de grâce. Celui qui n'a pas la charité ne peut prétendre à aucun des dons du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas la charité, qui n'est pas en état de grâce, ne peut prétendre à aucun des fruits du Saint-Esprit. Pour cela, dans la longue liste des fruits du Saint-Esprit qu'on trouve en Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, le premier, c'est la charité, justement. Donc posons-nous cette question, est-ce que la porte de mon âme est ouverte? Est-ce que la porte de mon âme est ouverte par l'état de grâce, ou est-ce que je ferme soigneusement la porte de mon âme par le péché mortel? Si je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, comment puis-je prétendre connaître notre Seigneur Jésus-Christ? Si je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, comment puis-je prétendre même comprendre notre Seigneur Jésus-Christ? Et si je vis encore une fois dans le péché mortel jusqu'au cou, comment puis-je prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ? Pour cela que celui qui perd la charité, par le péché mortel, qui tombe dans le péché mortel, perd non seulement les fruits du Saint-Esprit, mais aussi tous les dons du Saint-Esprit et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il n'y a plus de charité en lui. Alors, il faut savoir demander avec humilité ces dons, mes bien chers frères. Et si je reconnais que ma porte est franchement fermée, notre Seigneur Jésus-Christ, ou est entrouverte, mais vraiment pas trop, parce que j'ai peur de la sainteté, demandons à quelqu'un de venir mettre quelques petites gouttes d'huile dans les rouages de la porte, dans les gonds de la porte, afin que la porte puisse s'ouvrir plus largement. Cette petite goutte d'huile, elle a un nom, c'est la Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que l'Église enseigne, comme vous le savez, la Sainte Vierge Marie était avec les apôtres et les disciples au moment où le Saint-Esprit est venu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et l'Église enseigne que tous ces dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est passé d'abord par elle. Évidemment, elle aussi a été remplie des dons du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit sont passés par Notre-Dame, parce que Notre-Dame est le moyen obligatoire d'accès à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas aller à notre Seigneur Jésus-Christ directement, ce n'est pas possible. Le bon Dieu a voulu que nous allions à lui par sa mère. Bien pour cela qu'avant de mourir, il va confier son Église à sa mère. Femme, voici votre fils. Fils, voici votre mère. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, à transmettre ces vérités magnifiques, ces vérités extraordinaires qui amènent au ciel. Et au lieu de laisser nos enfants s'engluer dans les choses du monde moderne, espérer dans les biens et biens temporels d'ici-bas, expliquons à nos enfants, nous sommes des êtres d'éternité, nous sommes créés pour louer, honorer, servir Dieu. Et c'est pour cela, mes bien chers frères, qu'il faut absolument lever les âmes de nos enfants vers le ciel. C'est là-haut qu'on est attendu, c'est pas ici-bas. Nous sommes simplement des voyageurs ici-bas. Nous sommes des viateurs. Alors demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, afin que le découragement ne puisse nous détruire, ne puisse nous consumer, mais qu'au contraire, cette espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, fondée sur la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, puisse mener à la véritable charité, la possession éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.